Bonjour à tous. J'ai fait une petite découverte qui n'est peut-être sans intérêt pour ceux qui s'occupent des poésies. Et donc, je suis ravi d'avoir la possibilité de la présenter ici. Et donc, merci à Caterina Miachetti et à l'organisation donc, des Assises pour cette invitation. Donc, mon titre, c'est « La variété lyrique ». Et j'ai deux choses à dire, en fait. La première, c'est que, à mon avis, l'identité de la poésie lyrique est sa variété. Première chose. La deuxième chose, c'est que, les dictionnaires des langues modernes nous donnent généralement deux définitions des lyriques, et il manque la troisième. Et c'est sur la troisième possible définition des poésies lyriques que je vais présenter cette intervention. Voilà. Dans tous les dictionnaires des langues modernes, là j'ai choisi parce que c'était plus simple, la Rousse en ligne, mais je vous assure que dans les dictionnaires italiennes, en français, anglais, allemand, il y a presque toujours les mêmes définitions. On trouve généralement deux ou trois définitions, à l'exception de la lyrique en tant qu'œuvre lyrique, okay, l'œuvre musicale, là c'est autre chose. Mais il y a quand même des liens avec ce que je suis en train de dire. Donc, première définition, lyrique. C'est lisé dans l'Antiquité grecque de la poésie chantée avec accompagnement de la lyre. Okay? Ça, c'est la définition qui avait été fournie par les savants alexandrins lorsqu'il était en train de bâtir le canon des poètes lyriques grecs. Okay? Et c'est une définition très réalistique parce qu'en effet, il s'agissait d'une poésie chantée. Avec la lyre. J'appelle ça le paradigme classique. La deuxième définition qu'on trouve le plus souvent, c'est très liée à la première, et il décrit la lyrique en tant que genre poétique inspiré de la lyrique grecque, par opposition à la poésie épique ou dramatique. Parce que, vous le savez, c'est très clair, là, dans l'épique, il y a le poète qui décrit quelque chose qui est en train, les événements, l'histoire, la guerre, etc. Dans la poésie dramatique, il y a les voix des différents personnages. Dans la lyrique, il y a le moi. Il y a surtout le poète qui dit moi. D'accord? Troisième ou deuxième définition, c'est ce que j'appelle le paradigme moderne. C'est la définition dont est en train de parler Caterina en se référant à l'idée romantique des poésies. Donc, lyrique, c'est dit d'une œuvre poétique, littéraire ou artistique, où s'exprime avec une certaine passion les sentiments personnels de l'auteur. Et ça, même si pendant surtout le XXe siècle, il y a eu des autres idées, des poésies, j'ai l'impression que cette définition, c'est la définition la plus courante, toujours la plus courante. Et j'ai choisi une phrase de Victor Hugo pour la représenter. Il n'y a pas de poésie lyrique sans le « moi ». Et cette phrase représente très bien le paradigme moderne, l'idée des lyriques du romantisme. Donc il y a deux paradigmes. Le paradigme classique, qui décrit une poésie chantée au son de la lyre, et il y a un paradigme moderne. Mais il y a un gros problème du point de vue des médiévistes. Il y a un grand trou, qui est le trou du Moyen-Âge. Parce que dans presque toutes les études sur les définitions des lyriques, l'ouvrage la plus importante que je connais, c'est un livre de Guido Mazzoni qui va être là demain, qui s'appelle « Sous la poésie moderne ». Je ne crois pas qu'il a été traduit en français, mais il serait bien de le traduire parce que c'est très très intéressant. Mais il y a un trou, parce qu'on passe directement de l'Antiquité à l'âge moderne, la Renaissance et après au romantisme pour démontrer la, pour montrer la naissance de la, du paradigme moderne, non, donc de la deuxième définition. Mais il reste un petit trou, petit, pas tout à fait petit, le trou du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'il se passe dans le Moyen-Âge? En effet, parce qu'il y a un problème. Hein, parce que, par exemple, Pierre Bec, que tout le monde connaît, il s'est posé la question. Hein, il s'est posé la question de comparer la définition du paradigme de Lyrica number 2 à le corpus de Troubadour et en général à la poésie lyrique du Moyen-Âge français. Hein, et ils disent... Il dit, et tout d'abord, doit-on poser a priori les questions qui viennent immédiatement à l'esprit des lyrismes égale subjectivité, donc égale moi dans le lexique de Victor Hugo, ok? Oui, si l'on veut dire par là que le sujet objectif de l'effusion est un G qui se chante et autour duquel toute la poésie s'organise. Donc, observation formelle, non, qui se rattache à la deuxième définition que je vous ai montrée, non, la poésie lyrique, genre poésique qui, poétique qui va être distinguée de l'épique. Pourquoi? C'est le jeu qui parle. Non, donc, mais c'est une définition technique. C'est un jeu, mais ce n'est pas le moi. Okay, ce n'est pas la subjectivité. Il y a le jeu, mais il n'y a pas le moi. Non, il dit oui. Il dit oui, okay, non. Si l'on entend par subjectivité une adéquation spontanée et directe à la romantique de l'effusion lyrique aux pulsions affectives du sujet chantant. Donc oui et non. Hein? La poésie, surtout la poésie romane du Moyen-Âge, est lyrique dans une façon différente. Et voyons quelle est cette façon. Il y a une source qui est très importante, que tout le monde connaît, ce sont les étymologies d'Isidore de Séville. C'est probablement la plus importante, l'influence sur le Moyen-Âge et sur l'âge moderne des étymologies est imposante, même s'il y a souvent des fausses étymologies. Ok? Et là, dans les étymologies, on trouve une définition des lyriques très différente des autres deux définitions. Il s'agit d'une définition technique. Hein. Lyrisch poeti, apo, tu le rein, id est varietate carmino, unde et est lira dicta. Ça veut dire que les poètes lyriques sont définis à partir d'un verbe grec qui dénote la variété hein, des carmina, hein, donc des formes poétiques ou des maîtres. Et, ça c'est une fausse étymologie en effet, et surtout parce que Isidore explique le terme lyra à partir hein, de la variété lyrique. Parce qu'il dit dans un autre passage, parce que sur la lyra, il y a plusieurs cordes. Hein, donc il y a plusieurs cordes, donc il y a une variété. Okay? Or, presque tous les commentaires aux étymologies que j'ai consultées, ils se limitent à dire bon, Isidore se trompe, donc aucun problème. Bon. Première chose, on peut se poser la question de pourquoi il se trompe. Hein? Et deuxième question, qui est la plus importante de mon point de vue, est-ce qu'il y a une influence hein, de la définition d'Isidore? Je ne suis pas trop expert de la poésie grecque pour donner une explication précise de la raison pour laquelle Isidore, en se trompant, donne une définition comme ça. Peut-être parce qu'en effet, vous le savez, la lyrique des poètes lyriques, est effectivement une poésie très variée du point de vue des maîtres et des genres poétiques. Donc c'est un fait. Donc probablement Isidore observe les choses et il donne une fausse étymologie qui puisse expliquer les choses. Autre explication, il y a un traité de Denis d'Halicarnasse, c'est un traité rhétorique, qui explique que la variété, hein, c'est un principe très important pour tous les genres littéraires, hein, ça c'est très connu, mais il précise que le genre pour lequel, qui a la possibilité hein, d'exprimer une quantité de variétés, une plus grande quantité de variétés, c'est la lyrique, hein, pour des raisons techniques et métriques. Hein. Mais je ne sais pas si c'est ça la raison, mais c'est une explication. La chose la plus importante, c'est l'influence d'Isidore de Séville. Il y a des autres définitions des poésies lyriques qui on trouve quelque part dans les sources du Moyen-Âge. Il s'agit surtout de la définition des poésies lyriques qui on trouve dans Horace. Hein. Horace dit lyrique, c'est la poésie qui parle des dieux, hein, des héros, du vin et de la jeunesse. Hein. C'est ça la définition de d'Horace. Il y a aussi une définition de Tacite que je ne crois pas qui a eu beaucoup d'influence, qui va lier la lyrica à la iocunditas. Hein. Et ça aussi, c'est important. Mais ces définitions n'ont pas une véritable diffusion. La définition la plus répandue dans les sources du Moyen-Âge et surtout dans les dictionnaires et dans les sources encyclopédiques qui sont les plus importantes du point de vue de la diffusion parce que dans la plupart des cas, il s'agit d'ouvrages très copiés très souvent, donc on a beaucoup de manuscrits et c'était des ouvrages utilisés aussi dans l'enseignement, à l'école, etc. Et je n'ai pas le temps d'analyser toutes les sources qu'on peut retrouver, mais bon, je me limite à une carrellata, en français, une exposition rapide. Papias, 11e siècle, hein, il reprend la définition d'Isidore. Hein. Livici poète dicti a varietate carmino. Il n'existe pas encore une édition de Papias parce qu'il y a beaucoup de manuscrits. Lyricum carmen, et il va mélanger, ça c'est très important, il va mélanger la définition d'Isidore avec la définition que je viens de vous expliquer, qui on trouve dans Horace. Hein. Donc la poésie lyrique, c'est à la fois la poésie de la variété des carmines, mais est aussi la poésie dans laquelle on trouve les laudes. Poeosque de homo et pugiles et equi juvenes et dina referi. Donc, c'est la poésie qui est variée, mais qui parle des héros, hein, des dieux, de la jeunesse et du vin. Hein. Donc, les deux définitions sont mélangées. Mais la définition la plus importante, c'est la variété. Donc, dans la variété, il y a les sujets dont on parle, Horace. Et encore Bernard d'Utrecht, fin du XIe siècle, même chose, même mélange entre Horace et Isidore. Hein, apoto lirin, idest varietate, unde lira et delius qui ab hoc quadufuerit variatum. Là, il y a encore une autre chose qui est très importante, mais je ne peux pas en parler parce que là, il y a aussi, on retrouve Isidore, on retrouve Horace, mais il y a une autre équivalence. Hein. La poésie lyrique est la poésie du délire, hein, en reprenant toujours la même fausse étymologie. Et je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais c'est peut-être important parce que, vous savez, et je vais parler aussi de Pétrarque après, pour Pétrarque, par exemple, la poésie en langue vulgaire, c'est la poésie du péché, de la déviation. Hein? Et peut-être il y a un rapport avec la poésie du délire, hein? La poésie qui va délirer dans le sens de sortir, hein, du chemin. Conrad Dirceau. Définition encore, il s'agit de commentaires à des autres textes. Donc il s'agit de textes d'école, à la fois pour Bernard d'Utrecht et pour Conrad Dirceau. Hein? Donc, ça veut dire qu'il s'agissait d'une définition extrêmement répandue, parce qu'il arrive, elle arrive dans des textes d'école, des commentaires. Hein? Uguccione da Pisa, c'est un ouvrage qui a peut-être une influence, par exemple, sur Dante. C'est peut-être l'encyclopédie qui utilisait Dante, par exemple. C'est un autre texte qui était très répandu. Et on trouve toujours la Livinge, Latine dicitur diversitas vel varietas. Donc, là, il va expliquer que c'est le grec dit lyrine, mais en latin, c'est diversitas et variens. Et bon, là, il est un peu plus précis, il va réfléchir sur les choses, en fait, un peu plus des autres, et il explique que, bon, il y a la lyre, qui est l'instrument qui est composé par plusieurs cordes, et c'est pour ça qu'on appelle lyrique les poètes lyriques, parce qu'ils utilisaient la lyre, et donc il y avait une variété d'expression. Mais il y a une autre chose qui nous intéresse, c'est la référence à la douceur et la suavité. Donc, on a ajouté un élément. Donc, la variété, Horace, donc la poésie de Dieu, des héros, etc., et la douceur et la suavitas. Ça, c'est très important parce que vous savez que, par exemple, dans la perspective, dans ma perspective, donc la perspective de quelqu'un qui travaille surtout sur Dante, savoir que la définition la plus répandue au Moyen-Âge des poésies lyriques, c'était d'une poésie qui était variée et caractérisée par la douceur. C'est important parce que vous savez que vous êtes très informé sur les dolce stil novo. Okay? Et peut-être il y a aussi un lien entre cette définition et l'idée que la poésie doit être douce. Encore Vincent de Beauvais. Et Johannes Balbus, on arrive là à la fin du XIIIe siècle, toujours la même définition, tirée peut-être de Guccione, je ne sais pas, mais c'est un peu plus proche au Guccione, et toujours la même idée. Donc, ce n'est pas nécessaire d'analyser toutes les sources, parce qu'en effet, on retrouve toujours la même définition d'Isidore à partir au moins du XIe jusqu'à la fin du XIIIe, et on la retrouve encore dans Nicolas Trivet, qui, ça c'est encore en plus intéressant, parce que Nicolas Trivet s'occupe des tragédies de Sénèque. Et il dit et il applique toujours la même définition des lyriques même aux poésies à les tragédies de Sénèque. Donc ça donne une idée de la diffusion de cette idée, parce que l'idée qui était confinée à la poésie lyrique va rejoindre aussi un autre genre. Donc Sénèque est un poète aussi lyrique parce qu'il utilise une variété de maîtres dans ses tragédies. Là, il s'agit d'un traité qui, à ma connaissance, est encore inédit, dans un manuscrit de Venise, où on trouve la même définition, avec toujours la référence à Horace. Et après, je vais vous expliquer pourquoi la référence à Horace, c'est très important. Là, pour moi, c'est une dernière source très importante, c'est Guido da Pisa. C'est un commentaire à la Comédie de Dante, années 30-40 du XIVe siècle, un des plus anciens commentaires à la Comédie. Et il va reprendre toujours la même définition d'Isidore, mais il l'applique à la Comédie. Et ils disent, en citant un épitaphe de Dante, que Dante était à la fois un poète comique. Vous savez que, bon, ce n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi il est défini comique, mais il était aussi satirique et lyricus. Et il dit, sed etiam poeta lyricus, mais aussi un poète lyrique propter diversitate ritimorum et propter dulcissimum et melliflum sonum. Donc il est aussi un poète lyrique en raison de la diversité des rythmes, des maîtres, des formes métriques et à cause du son, de ces vers qui est très douce et melliflum. Mellifle, bon, je ne sais pas en français, mais vous avez compris. Or, pourquoi ça c'est très important pour la lyrique romane? Pourquoi, en effet, Poésie romane, surtout à partir de la poésie des troubadours, mais jusqu'à Dante, c'est effectivement une poésie très, très variée du point de vue métrique et formel. Hein? Là, c'est une phrase de Dominique Billy, qui est entre les plus importants spécialistes des poésies des troubadours, qui disent « L'architecture du troubadour est aussi variée que magnifique. Cette architecture se dessine aussi bien au niveau des espaces interstrophiques, etc. » Une richesse inégalée. Hein? Et ça, c'est confirmé par les déclarations des poètes même. Hein? J'avais noté plusieurs passages où les troubadours disent « J'ai l'intention de faire un chant novel hein? » et la plupart des fois, il s'agit en effet des chansons avec un schéma métrique original. Donc il y a une tendance à la variété, à l'originalité formale. Hein? Pourquoi ? Dans les troubadours, c'est facile à expliquer, parce qu'il était paillé. Hein? Il avait la nécessité de se distinguer des autres troubadours. Hein? Et si on arrive, mais je n'ai pas le temps de le faire, parce que la chose la plus importante que je voudrais dire, je ne l'ai pas encore dit, c'est que... Excusez-moi, oui, c'est ce que ces élans, cette tendance vers l'originalité formelle, on la retrouve aussi, par exemple, dans Dante. Vous savez peut-être que les schémas rythmiques, métriques des chansons de Dante sont toutes différentes. Il n'y a pas une chanson de Dante qui a le même schéma d'une autre. Hein. Il y a des affinités entre des chansons, mais... on ne peut pas faire le même raisonnement pour les sonnets, parce que les possibilités combinatoires du sonnet sont moins, mais pour la chanson, qui est le genre le plus important, cette tendance vers la diversité, vers la variété du maître est confirmée. Et là, c'est le premier sonnet du chansonnier de Pétrarque, et je l'ai reporté, je l'ai noté ici parce que je suis convaincu que le vario stile hein, dont on parle Pétrarque juste au début du chansonnier, c'est quelque chose qui est lié à cette définition de lyrique qu'on a retrouvée dans Isidore de Séville, hein, quand il dit de ces styles divers où je pleure et je parle. Hein, il vario stile in ch'io piango e ragiono. Hein, on pourrait peut-être traduire ce style varié, hein, plutôt que divers. Mais divers, ça va. Mais pourquoi c'est important, Pétrarque ? C'est important, Pétrarque, parce que Pétrarque est le lien entre la première définition de lyrique, donc des poésies chantées au son de la lyre, et la deuxième définition, donc la poésie du moi. Pourquoi ? Pétrarque est notre définition, donc le paradigme médiéval du Moyen-Âge, donc de la poésie en tant que poésie de la variété métrique constitue le lien, à mon avis, qui nous explique hein, la naissance du paradigme moderne. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous savez peut-être que dans la poétique d'Aristote, il n'y a pas une véritable définition de lyrique. Okay ? Il y a un autre trou hein, sur la lyrique. Or, lorsque les savants de la Renaissance sont en train de redécouvrir hein, la poétique d'Aristote, il y a un problème. Hein. Si la poésie, selon la poétique, est une imitation, hein, qu'est-ce que la poésie lyrique va imiter hein? Qu'est-ce qui imite la poésie lyrique hein? C'est ça le problème. C'est ça le problème des plusieurs savants entre le XVIe et le XVIIe siècle. Et la réponse, en Italie surtout, doit partir de Pétrarque, parce que Pétrarque, c'est le poète lyrique par excellence. Et la réponse, on la trouve hein, dans un traité écrit vers la fin du XVIe siècle, du Cinquecento, par Pomponio Torelli, le traité de la poésie lyrique, où il va établir une équivalence entre la variété formelle, hein, donc la variété des maîtres et la variété la varietate carminum, et la variété des émotions et des affections qu'on peut représenter dans la poésie. Okay? E il dit, né altro diremo che sia la poesia lirica che imitazione di costumi e affetti diversi. Donc la poésie lyrique est une imitation des coutumes et d'affections différentes qui est fatta con diversa sorte diversi. Donc faite avec différentes espèces de vers. Donc l'équivalence c'est très très explicite. Et là, encore, il va préciser son idée. Sì che per la diversità degli affetti, per l'incerta qualità loro, ebbe bisogno il lirico d'un si vario soggetto, qual è la diversità dei versi. Donc, à cause de la diversité des affections, à cause de l'incertaine qualité des affections, le poète lyrique avait eu besoin d'un sujet si varié comme la, la diversité des vers. Okay. On va retrouver encore la même idée, donc d'une équivalence entre la variété des vers et la, la diversité des affections, lorsque hein, dans la poésie européenne vont arriver véritablement les poètes grecs, hein, parce que on apprend le grec et on va imiter les formes, la pluralité des formes. Donc il y a, dans la poésie française et dans la poésie italienne aussi, surtout par Gabriello Cabrera en Italie, mais le lien avec la théorie et la pratique de la poésie française et Gabriello Cabrera sont très, très connus et très forts. La même chose se passe en France et en Italie, mais je m'occupe surtout de l'Italie. Là, il y a une autre chose qui est en train de se passer, que la quantité des formes possibles dans la poésie italienne, donc chansons, sonnets, ballades, madrigales et autres trois ou quatre, va se multiplier selon l'exemple des poètes grecs. Et la justification de cette expansion est conduite surtout par Gabriello Cabrera, sur la base du critère qu'on a la possibilité d'expander dans l'orgie le nombre de maîtres et de formes de la poésie italienne, puisqu'il y a une idée complexive de la poésie lyrique en tant que variété. Donc on est autorisé à en l'orgie le nombre des maîtres et des formes utilisées. J'ai encore... Ok, bon. Et je vais conclure avec Hegel. Vous savez que Hegel est le principal responsable de l'affirmation dans le romantisme, hein, de la deuxième définition de Lévique, non? Donc de la définition de Lévique en tant que poésie du sujet. Hein? Ça, c'est dans l'architecture de l'esthétique, hein, la poésie lyrique est la poésie du sujet. Hein? Mais ça, c'est la première partie de la définition d'Hegel. Hein? Il y a une deuxième partie qui, la plupart des fois, a été oublié, au moins dans les études que j'ai lues. Je m'excuse parce que je n'ai pas eu le temps de trouver une traduction française, donc ce n'est pas correct tout à fait, mais donc là il s'agit d'une traduction italienne dans l'allemand et je vais vous donner une paraphrase en français. Bon, donc, mais j'espère que la substance soit correcte. Donc, la dernière chose dans cette sphère, donc à propos de la poésie lyrique dont il nous reste à parler, regarde la forme et la réalité extérieure de l'œuvre d'art lyrique. Et là-dedans, on peut colloquer le maître et l'accompagnement musical. Hein. Et on comprend facilement que ils disent que pour l'hexamètre, c'est très adapté à la poésie épique pour son uniformité. Okay? Mais ils disent que pour la lyrique, au contraire, il nous faut demander la plus grande variété des maîtres et la plus multilatérale structure interne. L'argument de la poésie lyrique n'est pas l'objet dans son évolution réelle, comme dans l'épique par exemple, mais le mouvement antérieur du subjet, du poète. Donc là, cette définition qu'on a retrouvée dans Isidore, dans les étymologies d'Isidore de Séville, à travers les sources du Moyen-Âge et la réflexion dès la, fin de la Renaissance, constitue une espèce de fossile. Non? C'est quelque chose de fossile. Ils ne sont pas, surtout à l'époque d'Hegel, il ne connaît pas probablement Isidore, ou il n'est pas. Il connaît Isidore, mais il n'a pas la conscience que cette définition, cette idée des poésies lyriques en tant que poésie variée du point de vue métrique et formel remonte jusqu'à Isidore, mais il est quand même convaincu du lien qu'on a vu explicite dans Pomponio Torelli, de la variété formelle et de la variété des arguments et de la variété qui donne la possibilité de représenter la variété des affections. Et bon, c'est pour ça qu'à mon avis, le paradigme que je définis, le paradigme médiéval, explique la naissance de la définition de lyrique en tant que poésie du sujet. Lorsqu'on arrive avec la dernière citation, qui c'est Flaubert, qui parle de lyrisme, donc c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qu'on peut, peut retrouver même dans la prose. Il dit « la vie bandée, tout est là, c'est pour cela que j'entends le lyrisme, il me semble la forme la plus naturelle de la poésie. Elle est là, toute nue, est en liberté, toute la force d'une œuvre gît dans ses mystères, et c'est cette qualité primordiale, sémantus animi continus, vibration, mouvement continuel de l'esprit qui donne la concision, le relief, le tournure, les élans, le rythme, la diversité. » Là, il n'y a plus aucun rapport avec Isidore, parce que le paradigme a changé. On est passé dans la conscience d'un paradigme médiéval dans lequel c'est encore explicite le lien entre la variété formelle et la variété des affections. Et là, c'est autre chose. Il y a juste l'idée de la variété de l'esprit, mais il y a encore comme un fossile, non? Un résidu. C'est quelque chose qui reste dans le Alors, il y a encore l'idée, par exemple, de la diversité et de la liberté, la dissolution des formes, la possibilité, par exemple, dans Leopardi ou dans la poésie du XXe siècle, d'utiliser n'importe quelle structure métrique sans respecter les formes de la tradition, c'est, à mon avis, une expansion, de l'expansion des possibilités de la lyrique en tant que genre de la variété qu'on a retrouvé par exemple dans Gabriello Chiabreva. Mais l'idée c'est toujours la même, même dans Leopardi par exemple, que la lyrique c'est le genre qui représente l'antériorité parce qu'il y a plusieurs formes qui donnent pour représenter cette variété. Donc, bon, je vais conclure et j'arrive à la raison pour laquelle je suis en train de faire cette étude. Donc, à mon avis, il faudrait ajouter dans les dictionnaires des langues modernes au moins une troisième définition de lyrique, en tant que poésie de la caractérisée par la variété métrique et formelle. Merci.